présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les commerçants, les grossistes rouspètent, car c'est leur mort, car tout se passe sur ordinateur. Tout s'achète chez le producteur, sans passer par les intermédiaires. Les chômeurs, les SDF, tous ces gens qui ne peuvent avoir d'ordinateur, comment vont-ils faire pour acheter des vivres? Et oui, acheter pour pouvoir vivre. Et officiellement, ils risquent de ne plus exister, car la carte puce sert à acheter, sert aussi de carte d'identité, de carte de sécurité sociale de vote, etc. Ils ne sont plus rien, ne peuvent aller nulle part, ne peuvent plus acheter, sont sans carte, ils n'existent plus. Là-bas. Les commerçants et les SDF décident de faire du commerce parallèle. Ils vendent sans carte à crédit entre eux, payent quand le SDF peut donner en échange quelque chose et le SDF vole pour acheter. Les pauvres ont leurs commerçants qui achètent en troc du pain en échange d'un vieux livre, etc. Les SDF font, lorsqu'ils ne veulent pas, les corves, grenées, enlèvent, déménagent ce que les gens ne veulent plus. Ils trient pour vendre et acheter de la nourriture. En échange du troc, ils ont du pain pour rien. Ils font les poubelles aussi, les décharges. D'un côté, un monde avec cartes, puces et ordinateurs. De l'autre, celui du système D, troc. L'État ferme les yeux. C'est plus simple que de trouver une solution à la pauvreté.
Bonjour Félix.
Alors voilà, 6 douzaines d'œufs, 2 hollandes et 10 litres de crème.
André, attention à ta bronchite.
Merci, vous êtes une vraie mère, madame Jules.
Bonjour, chômage.
Bonjour, les gars.
Dis donc, 5 ans, c'est fait moins de monde.
Ah oui.
Ce matin.
Les jours passent. Sur la Lune, les bactéries qu'on a mises se multiplient et grossissent. Elles s'acclimatisent très bien. Elles ont été mises dans des serres avec de l'eau, des légumes et de l'air. Petit à petit, les serres pour les bactéries et les légumes ne suffisent pas et s'éparpillent sur la Lune. Les jours passent. Galien et Guillaume font l'amour dans la chambre de Galien parce que dans la chambre de Guillaume se trouve l'ordinateur de sa mère et cela gêne Guillaume. Un après-midi, que Galien est à son bureau, l'on sonne à son appartement. Guillaume est au salon à lire. Il entend le domestique ouvrir la porte.
Oui.
Bonjour monsieur, je suis madame, l'ancienne secrétaire de monsieur Jeune-Tout. J'aimerais parler à monsieur Guillaume de Flory.
Bien madame. Je vais voir.
Et le domestique s'éloigne
frappe à la porte du salon. Entrez. Il entre. Monsieur, il y a une dame qui désire parler. Qui est-ce? C'est l'ancienne secrétaire de Monsieur Genetoux. Guillaume réfléchit. Faites-la venir. Nous verrons bien. Le secrétaire se retire. Guillaume se demande ce que veut cette femme qui a créé déjà tant de problèmes. On frappe à la porte. Entrez. La porte s'ouvre. C'est la femme, habillée d'une robe noire. Guillaume va vers elle. Bonjour madame, vous désirez me voir?
Oui monsieur, c'est un peu compliqué.
Venez, allons nous asseoir. Elle le suit. Asseyez-vous. Il a fait asseoir dans un fauteuil. Et lui prend celui d'en face.
Je vous écoute, madame.
Elle lui dit :
Eh bien voilà, monsieur, c'est bien désagréable, mais enfin, vous êtes au courant que Galien Diap, votre ami, a un autre ami ?
Guillaume lui dit :
Non, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire?
Elle lui dit,
c'est simple. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'armistice a été si facilement signé et vous montrer que M. Diap a joué le double jeu dans ce conflit. Pour que vous puissiez le dire et que l'on le destitue de son poste.
On pourra vous aider pour que vous preniez sa place. Guillaume lui dit, c'est ridicule tout ça.
Elle lui dit,
lorsque vous saurez le nom de la personne, vous ne direz pas ça.
Eh bien, dites-le.
C'est son cousin Philippe. Ils sont amants depuis toujours.
Vous ne le saviez pas?
Vous comprenez tout maintenant.
Guillaume lui dit, vous êtes ridicule. Bien sûr que je le savais, et cela ne me gênait absolument pas. Vous n'avez rien d'autre à me dire?
Elle lui dit, puisque vous le prenez comme ça.
Elle se lève, lui aussi.
Sorte du salon, et il la raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur. Et ne soyez pas trop sévère pour Galien. Ils se connaissaient déjà depuis toujours.
Il ouvre la porte. Elle s'en va. Guillaume au salon.
Galien demande, t'as passé une bonne journée?
Oui, et très instructive.
Ah bon?
Guillaume lui dit, j'ai appris que tu avais un amant.
Galien rougit et dit,
qu'est-ce que c'est cette histoire?
Guillaume lui dit,
tu ne vois pas qui est-ce?
Non.
Et qui t'a dit une chose pareille?
Ton amant, c'est Philippe.
Galien lui dit, Philippe? Tu vas pas être jaloux de Philippe? C'est mon cousin et je le connais depuis toujours.
Guillaume lui dit, est-ce que tu l'aimes?
Bien sûr que je l'aime. Mais je vais avec toi et c'est l'essentiel.
Oui, mais tu l'aimes?
Galien lui demande,
qui t'a dit ça?
Guillaume lui dit, une personne très au courant et qui savait bien des choses. Dis-moi son nom. » Guillaume lui dit, « Oh, et puis, tu peux le savoir, puisque nous deux, ça n'a jamais été bien profond. Une femme est venue, l'ancienne secrétaire de Genetou, et m'a tout dit. Elle m'a même dit que vous étiez de combine pour la guerre et que c'est pour ça que les Américains ont perdu. » Quelqu'un lui dit, « Juste cette femme ne la reçoit plus. C'est elle qui a la cause de cette guerre que nous avons eue. Tout ce qu'elle te dit, ne la crois pas. Je t'aime. Et c'est essentiel. Je te jure que je t'aime. Et que Philippe, c'est l'ami de toujours. Tu vas pas me reprocher de l'avoir connu avant toi, toi aussi. » Guillaume lui dit, « Bien, puisque tu me dis que tu m'aimes, et puis d'ailleurs je l'ai mise à la porte. » Galien lui dit, « Alors tout va bien ?» Mais Guillaume reste sur ses gardes. Galien se dit, si le MLF avait eu les mêmes idées que Rimbaud sur la femme, sa liberté, elle aurait été plus grande qu'elle ne l'est devenue et on n'en aurait pas fait une vulgaire copie d'homme. Qu'importe le style, ce qui compte c'est d'aller de l'avant pour dire ce que l'on a à dire, pour écrire ou autre. L'idée doit être plus forte que le verbe employé et la phrase. Elle doit être tellement forte que l'on est impossible de la styliser pour la dire. Il faut la dire à tout prix et le plus vite possible. L'écrivain doit être avant d'être un styliste, un voyant, pour faire voir des personnages, des histoires, des idées. En redevenant un dieu où tout jaillirait de son cerveau, de son âme. Un dieu créerait à chaque fois un monde. Mais comme dieu, il n'a pas besoin de phrases bien faites pour cela. Il n'a besoin que d'idées. Et si la phrase est bien faite, ce n'est que le hasard qui l'a voulu. Ce n'est que la cerise sur le gâteau, rien de plus. Le gâteau est bon sans la cerise et a le même goût. Ceci dit d'une façon bien stylisée ou mal écrite, l'idée est la même et c'est l'essentiel. L'auteur refait le monde, et en refaisant le monde, il pourra donner des idées pour régler des problèmes, des solutions d'anciens problèmes ou de nouveaux problèmes. Les sciences n'ont pu être créées que si l'artiste était avant les scientifiques, car c'est l'artiste qui ont vu et compris le monde en premier. Ensuite, les scientifiques ont essayé de le résoudre. L'artiste, l'écrivain, c'est Dieu qui crée le scientifique après aide à harmoniser le monde pour que toutes les espèces vivantes puissent vivre en bonne harmonie sans se gêner. Et en même temps, le scientifique est le gardien qui empêche la dégradation du monde en le soignant, en le préservant des turpitudes dues au mélange des espèces, microbes, bactéries, harmonie du corps, etc. En même temps, le scientifique cherche à comprendre comment, pourquoi, pour résoudre les problèmes du monde, même le servir et enrichir la connaissance de l'homme d'une façon plus réelle que l'artiste. Mais sans l'artiste, le voyant, pas de science. Rimbaud et Pasteur. Les mères qui ont été violées par les chimères auront des chimères de génération en génération, même si quelquefois ça peut sauter une génération, c'est dans leur gène. Pour les plantes aussi et les animaux, c'est la même chose. L'on essaye, c'est des gènes pour éviter que ça saute de génération en génération, pour stopper cette évolution. Sa chambre, Karine caresse le visage de sa vieille poupée de chiffon, un visage tout triste, avec de grands yeux, une bouche en forme de corps, le tissu de la tête blanc, délavé, ses cheveux blonds sur un chapeau de tissu beige. Elle a l'air bien triste, cette poupée, comme Karine, qui a la gorge serrée et s'assoit sur le rebord de son lit. La chambre est juste éclairé par la lampe de chevet de la table de nuit. Karine tient la poupée contre elle, et en chemise de nuit blanche, les cheveux longs châtains défaits, son visage, les traits un peu osseux, mais beaux. Elle a 35 ans, Karine. Elle se dit que la vie n'a pas été bien juste pour elle. Oh non! Elle n'a pas été juste. Je maudis ma mère de m'avoir donné la vie. Par sa faute, j'ai vécu toutes les humiliations. Se souvient, sa mère venait d'être enterrée il y avait à peine une semaine. Elle vivait seule avec son père et une domestique, une vieille femme qui faisait tout dans cette maison. Durant toute la journée qu'elle avait passée avec sa poupée au salon, près de la cheminée, parce qu'il faisait très froid. On l'avait couchée, elle avait 10 ans, dans son lit, bien au chaud. Elle s'était endormie presque de suite. Elle a été réveillée par la porte qui s'est ouverte de sa chambre. Une ombre dans l'encadrement de la porte. Mais elle n'a pas eu peur qu'elle a reconnu son père. Son père qu'elle n'avait pas revu de la journée.
s'est accrochée du lit. Elle n'a pas bougé. S'est penchée.
Tu ne dormais pas?
Si, mais j'ai entendu la porte.
Il lui a dit, je suis venu te dire bonne nuit.
Et s'est penché sur elle, l'a prise dans ses bras, en lui donnant un long baiser sur la joue. Elle a senti son odeur, une odeur de tabac et de produits pharmaceutiques. Puis, elle a senti que son baiser descendait le long de son corps. Il était de plus en plus chaud, doux, profond. Ses lèvres aspiraient même sa peau. Cela lui donnait un frisson agréable. Il se pâte plus fortement contre elle. Ses mains lui descendent le dos. Elle sentait le corps chaud et doux de son père. Cela lui faisait du bien. Elle ne sentait pas que c'était... Elle pensait que c'était comme dans un rêve. Oui, elle ne pensait à rien, pas le moindre bruit. Tout d'un coup, à cause d'un geste, elle s'est sentie gênée, honteuse, eut peur en même temps. Son père venait de lui toucher le bas de la taille et de soulever son slip. Elle ne comprenait plus, ne savait plus. Elle avait honte d'avoir eu du plaisir. Elle ne savait comment se défaire de ce corps plaqué contre elle. Cela la dégoûtait. Elle était comme paralysée. Elle n'osait pas crier. Et en même temps, du dégoût, elle ressentait un certain plaisir. Puis, tout à coup, tout a été très vite. Comme elle ne se débattait pas, il l'a prise. Elle était comme une poupée de chiffon. Elle a eu peur. Pas de ce qu'elle ressentait ou de ce qu'il lui avait fait, mais de voir son père suer, se débattre, comme s'il souffrait. Elle avait peur de lui, qu'il ne soit malade. Elle ne pensait qu'à lui. Elle ne voulait pas qu'il soit malade. Elle ne pensait pas à elle. Une fois que tout a été fini,
il s'est relevé, rangé, et quitté la chambre sans rien dire.
Elle est restée dans son lit, confuse, sale, moralement et mentalement, physiquement. Elle ne savait que faire. Elle est restée comme ça, la tête vide. Pour elle, elle ne savait pas. Puis, elle a éclairé pour voir les draps défaits, sa chemise de nuit relevée, ses jambes souillées de sang et de blanc. Elle a eu la tête qui tourne.
S'est levé, enlevé sa chemise de nuit, sortir de la chambre pour aller dans la salle de bain, se nettoyer. Elle s'est essuyée, enfilée une nouvelle chemise de nuit et retournée se coucher.
Essoufflée, elle s'est dit que c'était bien étrange. Puis, elle a eu peur, peur que son père soit devenu fou. Elle a pleuré, n'a pas osé se rendormir. Que son père soit furieux contre elle et court qu'il soit malade. En tremblant, elle sort de sa chambre pour aller au salon prendre son petit déjeuner. Elle aurait aimé qu'il ne soit plus là. Elle ouvre la porte de la salle à manger. Il était là, assis à table, bien droit, comme son costume gris, et prenait son petit déjeuner. Il a à peine levé la tête lorsqu'elle est entrée. Non, rien, aucun trouble. Elle s'est dit, tant mieux, ou peut-être, c'est peut-être plus grave. Elle s'est approchée de lui, hésitant, pour l'embrasser ou non. Il a tendu sa joue comme d'habitude. Elle lui a donné un baiser rapide. C'était comme tous les jours. Elle était allée s'asseoir en face de lui. Son père lui a demandé « Qu'est-ce que tu as comme cours ce matin ?» Elle lui a répondu « Grammaire, géométrie, français, c'est bien. » Et ils ont fini leur petit déjeuner sans se parler. Puis il s'est levé et lui a dit « À ce soir. » Et il a quitté la pièce. Tout s'est passé comme si ce qu'il y avait eu hier n'avait pas eu lieu ou n'avait aucune importance. Elle a eu envie de pleurer et se dit que peut-être il la prenait pour une moins que rien. La journée s'est passée comme dans un rêve. Elle était très discrète, pensait très souvent à ce qui lui était arrivé, essayait de comprendre. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était bien ou mal ce qui lui était arrivé. Le soir, en rentrant chez elle, elle retrouve son père au salon. Il lit le journal comme d'habitude. Le dîner se passe en silence. Elle était dans ses pensées. Puis, ils sont sortis de table pour aller au salon.
est assis dans un fauteuil.
Il lui demande « Va me chercher ma robe de chambre. » Puis son porteau. Puis ses cigares. Il lui dit « Désormais, puisque ta mère est morte, tu me prépareras tout ça chaque soir. » « Bien, père. »
Et elle s'est assise dans un coin du salon pour étudier les cours du lendemain.
Puis elle s'est couchée en se disant que ce qui s'était passé hier au soir devait être une exception, comme un rêve étrange qu'il fallait oublier. S'est endormie. Dans la nuit, il est revenu. Il n'a rien dit et il l'a fait. Elle s'est laissée mener comme une poupée de chiffon en n'ayant plus peur car elle savait que son père n'était pas malade. Désormais, il allait la voir souvent dans sa chambre, de la même façon et en silence. Lorsqu'il se voyait dans la journée, il ne n'en parlait pas et faisait comme si de rien n'était. Pour elle, c'était devenu une habitude et quelque chose qui faisait plaisir à son père, c'était l'essentiel. Dans la journée, petit à petit, il lui a donné des choses à faire, à préparer, le linge, le rangement de la maison. Et un jour, il a donné congé à la vieille bonne. « Merci, j'ai plus besoin de vous. Ma fille est assez grande pour tout faire. » Elle s'est retrouvée seule, comme ça, avec son père, sans comprendre, sans s'en rendre compte. Elle a quitté l'école. Elle est devenue la maîtresse et la servante de son père. Cela ne la gênait pas, parce qu'elle l'aimait beaucoup et l'estimait. Elle était même heureuse de faire son devoir. Il lui disait « Je suis fier de toi, tu remplaces ta mère. » Et elle la remplaçait en tout. Le temps passait. Le temps passait comme ça. Un jour, en plus du travail de la maison, il lui a donné à la maison du travail de secrétariat. Elle ne sortait presque plus, juste pour les courses. Et encore, la plupart du temps, les courses étaient faites par ordinateur. Elle n'avait pas d'amis et était seule à la maison. Elle ne sentait aucun besoin d'avoir un homme près d'elle, parce que depuis sa plus tendre enfance, son père se changeait de ce rôle. Le temps a passé, elle est devenue une grande jeune femme, grande, sec, vivant toujours avec son père. Elle s'est mise à aimer et à être fière d'être la fille, la maîtresse, la bonne et la secrétaire de son père. Elle ne voit personne, ne sort pas. Elle est heureuse de vivre ainsi. Son père la présente fièrement à ses amis en leur disant « Ma fille !» Elle est fière de lui parce que c'est un grand médecin, un chercheur. Il s'occupe d'une clinique laboratoire de pointe. Son père vient la voir souvent la nuit pour un petit câlin, comme il dit. Et même quelquefois, il reste au lit jusqu'au matin. Maintenant, il se déshabille comme un bon père de famille qui va rejoindre sa femme au lit. Et elle se prépare de la même façon. C'est comme ça, et l'on est habitué. Le temps passe ainsi. Petit à petit, il vient moins souvent au lit et surtout, de temps en temps le soir, il sortait de temps en temps le soir. Elle devrait l'attendre, ne rien dire, surtout ne pas lui poser de questions. Et au fil des mois, il s'est mis à sortir de plus en plus. Il devient de plus en plus sec avec elle et la traiterait comme une simple domestique. Puis, il n'est plus allé la voir. Cela l'a beaucoup attristé. Ce n'est pas le manque de sexualité qui l'a attristé, mais de n'avoir plus à faire son devoir avec lui, de ne plus faire une chose avec lui, de lui avoir enlevé en quelque sorte une responsabilité. De caractère, elle était devenue une vieille fille qui aimait bien ses responsabilités et semblait être indispensable puisqu'elle avait des tâches bien précises à faire et qu'elle semblait croire être la seule à pouvoir rendre service à son père. Un jour, son père lui dit, en prenant son petit déjeuner, « Ce soir, nous avons à dîner une personne. Tu prépareras quelque chose de bien. Et je tiens à ce que toute la maison soit parfaite. Bien, père. » Une fois que son père est parti, durant toute la journée, elle prépare le dîner, fait le ménage à fond, prévoit un repas, etc. Le soir, tout est prêt. Le repas a été commandé chez un traiteur. On lui a prêté un serveur. Elle a mis sa robe noire. Son père arrive accompagné d'une jeune femme qui a à peu près 10 ans de moins qu'elle. Elle est grande, mince, blonde, très belle, en tailleur rouge et noir. Son père lui dit « Je te présente Vitalie Régnier, une de mes assistantes à la clinique très efficace, ma fille. »« Mademoiselle, madame, le père rit et dit à la fille « Ne l'appelle pas madame, elle est plus jeune que toi. » c'est Vitali, tout simplement. Je tiens à ce que vous deveniez très amis.
Allons au salon. Son père et Vitali la suivent. Ils vont au salon. Le père et Vitali vont s'asseoir dans des fauteuils. L'un à côté de l'autre. Le père dit à sa fille, « Sers-nous à boire. » Vitali dit, « Moi, un cognac. » Son père dit, « Moi aussi. » Elle est allée chercher les boissons. Puis elle est revenue pour les servir.
Merci. Merci. Vitali a dit, c'est pas mal ici, mais un peu vieillot comme décoration. Son père dit, tu pourras tout changer comme tu le souhaites. Cette phrase a été un coup de poignard pour la pauvre fille. Ils ne lui disent rien et les choses se passent comme ça, comme si elles n'existaient pas. Son père lui dit, tu pourras montrer la maison. Puisqu'elle va habiter ici, elle s'est dit. Il me dit ça comme ça, comme ça, comme si c'était normal, et que je ne compte pas. Durant le dîner, son père n'a fait que des mamours à Vitali. Il lui a pris la main, la baisait, lui parlait à l'oreille, etc. Elle faisait comme si elle n'existait pas. Cela l'a mise en fureur, puis attristée. Après le repas, elle était obligée de lui montrer la chambre et toutes les pièces. Elle la suivait, la main dans la main, avec son père, et faisait des mamours, en faisant « Foui, 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 foui. » Karine avait envie de la gifler. Elle était au bord des larmes. Puis, elle l'a quittée. Son père a voulu la raccompagner. Karine avait la tête en feu. Son père est revenu 2 heures plus tard. Elle était au salon. Il lui a dit, « Belle fille, intelligente, nous allons nous marier le mois prochain. » Karine tremble de tout son corps. Il lui dit, « Range le salon. » Après, tu pourras aller te coucher. Et il la quitte. Karine va s'asseoir dans un fauteuil. Elle se dit, maintenant, je vois vraiment comment il est. C'est un égoïste. Qui se sert de tout le monde. Il s'est servi de moi comme sa chose et maintenant il me rejette. Alors, je lui reviens en souvenir la première fois qu'il est venu dans sa chambre. Mais cette fois, elle ne sent pas de la compassion. Elle n'a pas peur qu'il soit malade. Elle n'a pas honte d'elle-même. Elle n'a plus pitié de lui. Non, elle le déteste. Elle comprend l'horreur de ses gestes. Elle comprend le crime qu'il a fait sur elle, lui, le père, sur sa propre fille, et ceci sans le moindre remords. Cela la dégoûte. Elle a envie de crier, d'hurler, de se sauver. Et en plus, elle a été fière d'aider son père, de l'épauler. Et en plus, en a fait sa bonne, sa secrétaire, en plus d'en avoir fait sa maîtresse. Il en a fait son esclave. Et elle, cette idiote qui en était fière,
Elle lui a donné son corps, sa jeunesse, à cet être égoïste. Elle s'est donnée tout entière et avec joie,
orgueil. Pauvre idiote que j'étais. Elle est dégoûtée de tout ça, se lève, marche nerveusement et dit « C'est une bonne chose qu'il ait trouvé à me remplacer. Comme cela, je suis plus sa chose et j'ai enfin les yeux ouverts. » Puis, elle sort du salon.
Sans l'avoir nettoyée. Et va dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, elle se ferme à clé. C'est fini. Elle va vers le lit. Ce lit où il l'a prise, où il l'a violée. Elle arrache le dessus de lui. Les couvertures. Prends les draps. Ouvre la fenêtre. Et les jette dans le jardin. Se déshabille. Et va dans la salle de bain pour prendre une bonne douche.
Ses mains frottent son corps pour qu'il ne reste aucune trace de ce qu'il a fait. Il faut bien frotter, bien frotter.
Puis, elle retourne dans sa chambre. Prend une chemise de nuit propre. Des draps. Pour refaire le lit. Et se couche. Mais durant toute la nuit, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Malgré elle, elle entend des pas. Du bruit derrière la porte. Elle se recroqueville dans son lit de porc. Il lui semble revivre comme la première fois, mais cette fois avec l'instinct de conservation et non celui de plaire au père. Elle ferme les yeux très fortement, car elle ne veut pas le voir. Elle ne veut pas voir qu'il ouvre la porte. Il va venir. Elle entend du bruit ou est-ce dans sa tête qu'elle revit la scène? Où est-ce la réalité? Elle entend du bruit. Elle entend qu'il se penche.
Elle sent son odeur, son corps contre elle. Elle est en sueur. Non ! Lève les yeux, donne des coups de poing, des coups de pied, pour empêcher qu'il s'approche d'elle. Non ! Non ! Il s'enfuit. Elle ferme les yeux en soupirant. Mais durant toute la nuit, elle a peur. Elle a peur qu'il revienne. Et s'il est revenu?
Elle se réveille à l'aube. Elle n'en peut plus de cette peur et se dit « Désormais, je vais toujours avoir peur. Toujours. » Alors une idée lui vient. « Tu es libre? Tu n'as qu'à partir? Oui, je peux partir. Je suis une femme. »
Alors, elle se lève, s'habille, son sac de voyage, mais tout ce qu'elle a comme vêtements. Et sans bruit, elle va sortir de la maison.
Une fois dehors, c'est le petit matin, elle marche d'un bon pas. À la gare, elle prend un train pour Paris. Le train ne partira que dans un quart d'heure. Elle se dit une fois là-bas, je serai bien.